La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. L'émission précédente, hein, toujours consacrée aux pionnières au cinéma nées fin 19e siècle, début du 20e, nous a fait voyager en Australie à la rencontre d'une femme qui a exercé de multiples fonctions au sein du 7e art, telles qu'actrice, dialoguiste, co-scénariste, assistante de réalisation et de production, et je nomme Elsa Chauvel. Puis un saut jusqu'en Irlande nous a permis de rencontrer Mae Clarke, encore une de ces petites mains indispensables, aussi bien actives à la conception et création de costumes que des décors. Et nous n'étions pas surpris de la retrouver, actrice, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra aux commandes. Et même plus encore en amont, pourquoi pas, à la production. Ensuite, la Canadienne Mae Watkiss, fonctionnaire au compte du gouvernement, en œuvrant elle aussi au sein de l'industrie cinématographique, exercera également des fonctions quelque peu rébarbatives, puisqu'elle fut chargée aussi de prélever les taxes. Et surtout, n'oublions pas nos compositrices, qui même si elles n'ont pas composé de musique de film, n'en étaient pas moins des créatrices et vous ont permis, grâce à l'écoute de leurs œuvres, de vous décontracter un petit peu entre deux de mes commentaires. Et je nomme l'Australienne Miri Hill et l'Irlandaise Ina Boyle. Alors aujourd'hui, voyageons encore un peu dans le monde. Maintenant, je vous propose de partir en Croatie. Alors la Croatie, comme vous le savez, a fait partie de la Yougoslavie, dont elle s'est plus ou moins affranchie, comme l'ont fait les entités annexes, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine. Elle se situe proche de la Hongrie, en face de l'Italie, séparée par la mer Adriatique. Histoire de vous redonner quelques repères géographiques, ceci sans vouloir rentrer dans les complexités historiques. Alors, dans notre émission, nous sommes bien évidemment dans la Croatie de la fin du 19e et au tout début du 20e siècle pour y découvrir une journaliste écrivaine qui fut également scénariste. Et je nomme Marija Jurić Zgorka, née en 1873, qui fut de surcroît à son époque l'une des figures féministes les plus marquantes de la Croatie. Alors voyons déjà ses origines pour comprendre comment elle a pu évoluer. Or, d'une certaine manière, et grâce à la situation privilégiée de sa famille, elle aura la chance de recevoir une solide éducation, ce qui n'était pas monnaie courante, apparemment, selon mes lectures, pour la plupart des femmes de son pays, assujetties quand même au patriarcat et promises à des rôles subalternes. Par contre, lorsqu'elle fera part de son désir de devenir comédienne, elle se heurtera au refus de ses parents qui s'empresseront de lui faire épouser quasiment de force un inconnu, un Hongrois avec lequel Marija tiendra 3 ans pour ensuite s'enfuir et s'installer à Zagreb. Et c'est dans cette ville qu'elle deviendra alors la première femme journaliste de la Croatie et publiera son premier article dans un quotidien réputé intitulé Obzor. Alors comment en est-elle arrivée à réussir à publier dans ce journal? C'est la question que je me suis posée vu qu'elle n'était pas tant appréciée par le rédacteur en chef, qui la critiquait sur son caractère et qu'elle devait travailler apparemment, paraît-il, derrière un rideau car une présence féminine aurait fait tâche et choqué les éventuels visiteurs. Alors, est-ce à de possibles relations, vu son milieu, ou à l'impétuosité d'un caractère auquel aucune porte ne peut résister? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, avec nature plutôt indomptable, avide de justice sociale et d'égalité entre les sexes, elle fomentera par la suite, en 1903, une manifestation féministe à Zagreb. Puis ensuite, elle fondera le premier magazine féminin croate, en 1925, intitulé Ženski list ou Woman Paper, puis en 1938, un autre magazine intitulé Hrvatica Croatian Woman. Alors la Seconde Guerre mondiale, hein, sous le régime nazi, réussit à lui couper, hein, j'ose le dire, le sifflet, car elle sera reléguée en quelque sorte au placard, puisqu'elle sera interdite de publication et même ses biens seront confisqués. Mais ce n'est que partie remise, puisqu'après la guerre, elle revient à la charge avec une production littéraire qui marquera les esprits. Car elle propose, souvent dans ses romans, des femmes en butte aux conventions sociales restrictives pour leur sexe, ou bien ses romans prennent parti en faveur de groupes sociaux, comme pour la classe ouvrière, bon, notamment pour les ouvrières. Et en ce qui concerne le cinéma, on souligne également sa contribution en faveur de l'émergence du cinéma croate, surtout en tant que scénariste, et ce avant 1945, autant sur la base de romans d'écrivains croates que sur les siens propres. Or malheureusement, les films n'ont pas été préservés et restent de leur existence que des résumés, des écrits, des affiches, des témoignages épars qui prouvent quand même que le film a bien existé. Alors au préalable, certaines œuvres ont été adaptées au théâtre par Marija Jurić-Gorka avant d'être adaptées au cinéma. Alors évidemment, notre pionnière contestataire s'intéressait à des thèmes qui défrayaient la chronique. Par exemple, un des films tiré d'un roman d'un auteur croate nommé Auguste Senoa et intitulé Madja Gubek de 1917 traite de la condition paysanne au XVIe siècle et du soulèvement de ceux-ci mené par ce fameux Matija Gubek contre l'aristocratie. Quant au film basé sur le roman de Marija Jurić-Gorka, réalisé en 1920 et intitulé « La sorcière Griec », lui, il évoque l'esprit d'indépendance et non conventionnel d'une comtesse qui choque la société par son comportement et qui manquera de se faire brûler sur un bûcher en étant accusée d'être une sorcière. Mais paraît-il, hein, la comtesse s'en sortira sans trop de mal, non sans avoir remis quelques pendules à l'heure, hein, si je puis dire, sur le fait qu'une femme, elle aussi, a le droit de bouger et de respirer comme elle l'entend, du moment qu'elle ne nuit à personne. Alors, puisque nous sommes en Croatie, bah, que diriez-vous d'écouter une compositrice croate ? La personne que je vais vous présenter est née en 1885 et est décédée relativement jeune, à l'âge de 38 ans, en 1923. Bon, jeune homme, hein, en essayant de ne pas trop écorcher son nom, Dora Pejacevic. Alors, elle est issue de l'aristocratie. Elle reçoit de sa mère, artiste et mélomane, une éducation artistique complète en musique. Elle étudie le violon, le piano, aussi la peinture, la poésie, le théâtre, et devient, ben, dans la foulée, polyglotte. Et je vous ferai remarquer que depuis que je présente la voie des arts, nombre de femmes reçoivent quand même des formations poussées et sont souvent capables de s'exprimer dans plusieurs langues. Alors pour revenir à Dora Pejacevic, du mal à prononcer, elle composera ses premières pièces musicales à l'âge de 12 ans. Bon, alors inutile de dire qu'elle est douée, hein, ce qui lui permettra de poursuivre son apprentissage musical, encouragée en cela par la famille consciente de ses dispositions. Et il est dit d'elle qu'elle fut la première compositrice croate parmi les compositeurs à écrire et jouer un concerto pour piano. Mais malheureusement, un accouchement difficile met fin à une belle ascension de musicienne, hein, et à ses jours, hein, bien évidemment. Et comme bien d'autres de ses congénères, malgré son talent, ses dispositions et aussi son succès de l'époque, elle finira oubliée. Enfin, pas pour tout le monde, hein, puisque je suis là et que je l'ai trouvée, ainsi qu'une pièce de sa composition, pour vous la faire écouter, et je vous propose un quatuor pour piano. Thank you. Après cette romantique, mélancolique musique, accrochez-vous car nous filons tout droit vers le Chili à la rencontre de Gabriela von Bucenius Vega, qui elle est considérée comme la première réalisatrice chilienne, en plus d'autres activités hein, telles que scénariste, metteur en scène, directrice artistique, critique de cinéma, journaliste et romancière. Alors elle est née avec le XXe siècle, en 1901. Au tout début de sa carrière, elle écrit. Son œuvre connue, écrite à l'âge de 16 ans en 1917, s'intitule « L'agonie de Haruko ». Elle continuera d'écrire d'ailleurs, notamment des essais. Et preuve qu'elle s'intéressait au cinéma, elle publiera dans un magazine connu intitulé « Zigzag » des commentaires de films. Entre-temps, elle épouse un Italien, Salvador Giambastiani, et ça tombe bien car il investit le milieu cinématographique et est même considéré comme l'un des fondateurs du cinéma national chilien. Et c'est grâce à lui et à deux de ses associés que naîtra la Chile Film Company, dans laquelle Gabriela von Bucenius Vega va pouvoir exercer ses talents. Bon, déjà en collaborant avec son mari, à l'adaptation au cinéma qui à cette époque est muet, de son histoire intitulée « L'agonie de Haruko ». Et dans ce cas, elle se chargera de la partie artistique. Or, les décors sont des extérieurs naturels ou ont comme fond des coutumes chiliennes. Le tout pour raconter l'histoire d'une femme qui souffre de la perte de son mari et de son fils. Alors, à la sortie du film, les critiques sont mitigées, élogieuse pour les uns, dévalorisante pour les autres. Mais elle continuera ainsi de travailler pour le cinéma jusqu'au décès de son mari qui surviendra en 1921 et elle a tout juste 20 ans. Alors à ce moment, elle se tournera de nouveau vers l'écriture et notamment journalistique dans un premier temps et elle deviendra critique de cinéma. Elle publiera ses articles aussi dans les deux magazines qu'elle aura créés intitulé « Mondo Social » pour l'un et « Cinéma Magazine » pour l'autre. Et en parallèle, elle écrira des pièces de théâtre, dont deux intitulées « Le Retour » et « La Tour de Babel », qui seront jouées dans différents lieux du Chili. Et puis elle deviendra metteur en scène de pièces de théâtre pour enfants. Et enfin, elle publiera un dernier roman en fin de carrière littéraire, intitulé « Mes amis les cygnes ». Et après ce parcours où elle lia littérature et cinéma, elle décédera en 1975 à l'âge de 74 ans. Alors pour terminer avec le Chili, car je n'ai pas trouvé d'autres pionnières du début du XXe siècle, bon, de plus je vous rappelle que d'un point de vue historique, je ne dépasse pas la première moitié du XXe siècle. Et donc, pour quitter le Chili, nous allons écouter une chanson de la chilienne Violeta Parra, née sous le nom de Violeta del Carmen Parra Sandoval, et qui mérite, de par sa personnalité et son parcours, que l'on s'arrête sur elle. Alors, il semblerait qu'elle fût une artiste complète, dans le sens où elle a créé autre chose que de la musique, même si en musique, elle aurait commencé à composer à l'âge de 12 ans, mais elle jouait aussi de la guitare et chantait dès l'enfance. Et son père était, je crois, professeur de musique. Mais en plus, elle était aussi poétesse, peintre et s'adonnait à d'autres activités d'art plastique. Alors, elle est née en 1917 et l'on dit d'elle qu'elle a remis à l'honneur la musique populaire traditionnelle chilienne et ainsi œuvré pour valoriser cette culture. Alors au départ, elle fit des études pour enseigner aux enfants, puis elle se mariera à 21 ans pour mettre deux enfants au monde. Elle divorcera par la suite pour se marier de nouveau et mettre encore au monde deux filles. Ce qui ne l'empêchera pas de s'intéresser à la culture de son pays et notamment aux chansons folkloriques et traditionnelles qu'elle ira chercher pour les enregistrer, et ce sur tout le territoire chilien, et qui deviendront possiblement pour elle source d'inspiration. Alors en parallèle, elle laissera libre cours également à son inspiration plastique en fabriquant des tapisseries, des sculptures, hein, paraît-il, avec ce qui lui tombait sous la main. Elle voyagera également beaucoup, fera des tournées musicales dans les pays slaves, les pays nordiques, en Europe, un peu partout dans le monde, jusqu'à s'installer 2 années en France. Et ainsi, elle fera connaître la musique chilienne à la France en composant également des chansons qui seront entre autres des chansons d'amour. Alors elle le doit beaucoup apparemment à une rencontre amoureuse importante avec un anthropologue suisse, également musicien, clarinettiste hein, plus précisément, nommé Gilbert Favre, qui sera lui par la suite membre fondateur d'un groupe musical bolivien plutôt réputé, Los Rairas. Mais là, son départ en Bolivie met fin à sa relation avec Violeta Parra, qui apparemment le vivra difficilement. Et de retour au Chili, dans son pays, elle enregistrera son dernier disque en 1966. Et la chanson tirée de ce disque, et que je vous propose, s'intitule « Gracias a la vida »,« Merci à la vie », qui est l'une de ses chansons les plus réputées et connues, et qui a été reprise par de nombreux et célèbres artistes. Alors le titre interpelle hein, quand on pense que Violeta Parra s'est suicidée à l'âge de 49 ans en 1967. Alors je vais vous lire les premiers vers traduits en français, bon, même si je n'aime pas trop les traductions, mais celle-ci restitue quand même une musicalité poétique. Merci à la vie qui m'a tant donné. Elle m'a donné 2 étoiles qui, lorsque je les ouvre, me font parfaitement distinguer le noir du blanc. Et dans les hauteurs du ciel, la voûte étoilée, et dans les multitudes, l'homme que j'aime.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Pour revenir à Violetta Parra, la créatrice qui a composé et écrit cette belle chanson, une fondation Violetta Parra a été créée par ses enfants pour cette artiste, parce qu'elle a beaucoup œuvré, comme je vous l'ai dit, pour mettre en avant les traditions et la culture chilienne. En outre, un film sur elle a été réalisé par Andrés Wood, d'après le livre d'Angel Parra, le fils de Violetta. Œuvre qui a été récompensée notamment par le Grand Prix international du jury du Festival de Sundance 2012, qui est le principal festival américain de cinéma indépendant. Et c'est ainsi que nous terminons cette émission, et la prochaine fois nous retrouverons des pionnières du cinéma dans un autre pays. Ce sera la surprise, et en attendant, merci de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.